Bonsoir, 7 février 1992, 7 février 2017, hein, signature aux Pays-Bas, au bord de la Meuse de ce qui allait devenir le célèbre traité de Maastricht. C'était il y a 25 ans qui allait fonder l'Union Européenne, et c'est le volet économique qui nous intéresse donc avec la création de l'euro. Alors, fêter un anniversaire, bon, c'est pas forcément un événement en tant que tel, mais quand le continent justement traverse crise sur crise, les migrants, le Brexit au point de l'affaiblir, que les États-Unis de Trump, la Russie de Poutine voudraient l'achever ce continent européen, que des mouvements extrêmes grossissent lors des scrutins à venir, Pays-Bas, France, Allemagne, et que la monnaie unique pourrait être remise en cause. Alors oui, on peut se poser cette question, est-ce que l'euro va rempiler 25 ans de plus? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les décodeurs de l'écho avec un invité exceptionnel ce soir, c'est Jean-Claude Trichet qui nous accompagne sur ce plateau de BFM Business. Président de la Banque Centrale Européenne de 2003 à 2011 et gouverneur de la Banque de France auparavant de 1993 à 2003. Avec nous également Ludovic Subran qui est avec nous, chef économiste de l'assureur crédit Euler Hermès, qui est également directeur de la recherche chez l'assureur Allianz. Christian de Boissieu, professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Et puis Patrick Martin-Génier, spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po, qui vous prépare, l'Europe a-t-elle encore un avenir? Oui, c'est la question qu'on va se poser justement. Tiens, Jean-Claude Trichet, je me tourne vers vous spontanément. Vous étiez dans les coulisses de la préparation de l'euro avant d'en être quelque part le patron, entre guillemets. Racontez-nous justement ce qui se passait il y a 25 ans.
Ben, le problème principal que nous avions à l'époque, c'était la négociation de l'opting out des Britanniques. Et je me souviens que les Britanniques, après avoir négocier cet opting out, John Major,
savoir s'ils venaient ou pas dans
avoir la possibilité de ne pas entrer dans l'euro s'ils le souhaitaient. Et je me souviens, j'avais été très impressionné par le fait que la délégation britannique disait, on a quand même admirablement bien négocié parce qu'on a une option et on n'a rien payé pour avoir cette option. Une option à un prix, normalement.
Déjà,
ça m'avait assez impressionné, je dois dire. Autrement, la grande valeur ajoutée de Maastricht, c'était que les chefs d'État et de gouvernement, à leur niveau, avaient décidé qu'en tout état de cause, l'euro commencerait avant l'an 2000. C'était une décision qui n'avait pas été prise. Ce n'était même pas une recommandation qui était faite dans ce que les fonctionnaires avaient préparé pour eux. Et donc, c'était vraiment la valeur ajoutée de Maastricht.
Alors, l'euro a commencé avant 2000 dans les circuits financiers pour les entreprises.
Le 1er janvier 1999.
Voilà, 1999, et puis dans la poche de monsieur et madame tout le monde, le 1er janvier 2002 avec les pièces et les billets. Oui, 25 ans, je disais, bon, est-ce que c'est important ou pas de fêter un anniversaire, mais malgré tout, il faut le célébrer ou pas cet anniversaire? Tiens, Christian de Boissieu avec nous également, vice-président du Cercle des économistes. Hein.
Le célébrer, moi je suis pas étonné qu'il ait tenu jusque-là, et je pense qu'il va encore tenir un certain temps ou un temps certain. Je parle évidemment de l'euro.
L'euro, bien sûr.
Nous traversons depuis 2010 une crise de la zone euro qui n'est pas finie. Regardez à nouveau les supputations à propos de la Grèce. Donc, je considère que même si on a colmaté des brèches, la crise de la zone euro n'est pas finie, mais il n'y a pas eu de crise de l'euro en tant que monnaie de référence. Et c'est ça qui me frappe dans les débats, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on traverse de crise de la dette, de problèmes d'hétérogénéité à l'intérieur de la zone euro, enfin les débats sur lesquels on reviendra peut-être,
bien sûr.
Le reste du monde n'a pas vendu ces euros. La Chine, qui possède à peu près 20% de ses réserves de change en euros, ne les a pas vendus. Les pays du Golfe non plus. Donc l'euro reste là, la deuxième monnaie mondiale. La deuxième monnaie mondiale, 20% de part de marché. Alors loin derrière le dollar, qui fait 60% dans les réserves de change des banques centrales. Mais il y a le dollar en premier, il y a l'euro en deuxième, un peu le poulie d'or monétaire, par référence au cyclisme, si vous permettez cette image. Et puis derrière, il y a pas grand-chose. C'est-à-dire que la livre sterling, le yen font chacune 4% des réserves de change, et le yuan, la devise chinoise, n'est pas encore convertible, donc elle n'est même pas dans les statistiques, je dirais, du FMI sur ce terrain-là. Donc, moi, je voudrais voir le verre à moitié plein. Je dis, pour terminer là-dessus, il faut tirer ensemble les leçons de la crise de la zone euro, qui jusqu'à présent n'a pas été une crise de l'euro. Mais on peut pas se permettre, on peut pas se payer tous les X années des crises comme ça, parce que il finira par y avoir un problème d'image, de réputation, de crédibilité de la monnaie unique européenne. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant, et c'est tout le débat sur comment améliorer la gouvernance économique et politique de la zone euro.
On va y revenir. Oui, Patrick Martin, génie spécialiste des questions européennes à Sciences Po. C'était quoi l'esprit au départ de Maastricht? C'est vrai que à l'époque, Maastricht intervenait dans une phase où l'Allemagne s'était réunifiée, où l'Union soviétique venait de mourir, justement. Donc, on était dans une période, quelque part, de nouvelle période, nouvelle phase de paix, quelque part. Hein. 25 ans après, on est à nouveau dans une période de tension, justement.
Voilà, et je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer l'aspect politique de l'intégration européenne. Jean Monnet disait toujours, qui est un des pères de l'Europe, il faut toujours revenir au matin des choses pour avoir le cœur. Et je relisais, avant de venir ici, les conditions dans lesquelles ce traité s'était fait. C'était au lendemain, quand même, de la chute du mur de Berlin. Il y avait une exigence politique. Monsieur Trichet parlait des négociations avec les Anglais sur l'aspect économique. Mais je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit l'aspect politique. Et donc, dès le Conseil européen de Strasbourg, du mois de décembre 1989, François Mitterrand a interpellé Helmut Kohl en lui disant « Il faut qu'on aille plus loin, il faut ouvrir la voie vers l'union économique et monétaire ». Donc il y avait un aspect politique, et pour moi qui suis un militant d'Europe, un citoyen, je crois que l'euro aujourd'hui, par-delà les arguments économiques et financiers qu'on peut échanger, c'est véritablement un élément structurant de l'identité européenne. Et en effet...
Parce que le traité de Maastricht, il faut juste rappeler que c'est pas uniquement la création de l'euro et donc les fameux critères de convergence dont on parle souvent, les 3% voilà. De déficit, les 60% de dette. Non, c'est vraiment mettre en place l'Union européenne, donc avec les communautés européennes, la politique étrangère et de sécurité commune. Bon, ça, faut voir ce qui en est advenu. Et la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Là aussi, 25 ans après, on peut se poser la question.
On peut se poser la question, mais vous avez probablement vu qu'au sommet de Malte, on s'est posé
vendredi.
Vendredi, si on ne pouvait pas aller plus loin. Et il y a un autre anniversaire qu'on va fêter bientôt, au mois de mars, ce sont les 60 ans
du traité de Rome.
Et précisément, on reparle des coopérations renforcées, on parle de la création d'un parquet européen, et tout cela est déjà dans le traité. Oui. Donc, c'est cette notion de coopération renforcée. Je pense que, effectivement, les crises doivent permettre d'aller plus loin, et d'aller plus loin sur d'autres traités. Et Maastricht a été l'un des traités structurants de l'Union européenne.
Jean-Claude Trichet, vous qui avez suivi ça de près, donc en 1992, c'était très présent, justement, cette donnée politique, cette donnée de paix, justement.
C'était fondamental. C'était fondamental, clairement, au niveau de l'ensemble des participants. L'idée était exactement comme il vient d'être dit, de parfaire en quelque sorte la grande entreprise historique de création de l'Europe unie qui avait démarré en 1950 avec le discours de Robert Schuman et dont les dirigeants de l'époque et singulièrement en effet le chancelier Kohl et François Mitterrand mais dans la ligne de Schmitt et de Giscard voulaient ancrer définitivement. Et moi ça m'a beaucoup frappé, en effet ça venait très peu de temps évidemment après la chute de l'Union soviétique et ça venait et ils voulaient que ça se réalise avant l'an 2000. Même si dans l'euro, compte tenu des critères, il n'y avait eu que 3 monnaies fusionnant, ou 4, il fallait que ça commence de manière à ce qu'on ait vraiment fait une nouvelle avancée irréversible, entre guillemets, dans l'unité européenne. Et cette idée, c'est une construction politique. Ce que l'on vit, c'est la paix, la prospérité, la stabilité. Bien entendu, une prospérité de long terme. Je reviendrai un instant, quand vous voudrez, sur la zone euro, parce que Christian de Boissieu a dit des choses très importantes sur la zone euro.
On va y revenir. On va écouter aussi Ludovic Subran, qui est avec nous, chef économiste pour l'assureur crédit Euler Hermès. 10 pays au départ dans la zone euro, 19 aujourd'hui. On le fête comment cet anniversaire? Vous le fêtez comment, vous?
Moi, je pense qu'il faut le fêter, le célébrer plus que de raison, puisqu'on est à un moment clé où l'Europe et l'euro n'a pas le vote des cœurs. Et en fait, on se rend compte que les politiques européennes viennent au secours de nombreux défauts. Après avoir été accusé de tous les torts parce que certaines politiques publiques domestiques n'ont pas porté les fruits attendus et donc on a utilisé, je trouve, l'Europe et l'euro comme un bouc émissaire de beaucoup de nos problèmes. On a aussi menti un petit peu sur les promesses de l'euro parce qu'il y avait des faiblesses structurelles, il y avait des choix qu'il fallait faire sur la spécialisation efficiente des économies, sur quel niveau de confiance et de règles on voulait mettre dans cette structure, et on n'a pas vraiment su tenir ce momentum, hein, comme on dit, autour des grands axes de développement de l'Europe et de l'euro. Moi, je le vois, hein, les entreprises et les gens sont bien plus européens que les États. Et ça, c'est problématique, parce que c'est quand moi, en tant que jeune européen, j'avais 10 ans en 92, je peux vous dire que pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon fonctionnement, de mon ADN. L'Europe, je m'imagine pas autre chose que l'Europe ou que l'euro. Et pourtant, on est aujourd'hui dans un moment clé. Vous l'avez dit, le Brexit. On voit que c'est comme la théorie des empires. On a arrêté de s'étendre pour les raisons de consolidation. Et ça commence à fuiter un petit peu sur chaque frontière, malheureusement.
Ouais, Christian Boissieu, quand on écoute Ludovic Subran, qui nous dit, voilà, c'est finalement un élément de l'Europe. Vous nous disiez, l'euro représente 20% des réserves mondiales. L'Europe a pu s'imposer dans un paysage financier un petit peu troublé depuis 25 ans grâce à cet euro.
Moi, je pense que l'euro est un élément de, j'allais dire de puissance, j'aime pas trop le mot, mais l'euro a permis de rééquilibrer un tout petit peu un système monétaire international qui était quand même assez déséquilibré, qui le reste déséquilibré. J'ai parlé tout à l'heure de l'avance du dollar en termes de part de marché. Moi, j'avais malheureusement plus que 10 ans, 1992, donc j'étais déjà arrivé à l'âge de la conscience monétaire et financière, et je m'intéressais à ces sujets. Je pense que, au fond, les gens critiquent cette démarche de l'euro. Moi, je la critique pas, je l'ai soutenue, je la soutiens toujours. Ils critiquent le fait que, au fond, c'est une expérience particulière, très originale, qui consiste à mettre la monnaie avant que des conditions de, je dirais pas de l'union politique, parce que c'est, l'expression est un peu vague, mais avant que des conditions politiques soient satisfaites. Là, où on est...
Reconnaissez, Christian de Boissieu, et souvent dans les reproches, et on y reviendra justement, dans la bouche de ceux qui disent il faudrait revenir sur l'euro, c'est l'euro est une perte de souveraineté, l'euro a été imposé.
Oui, mais attendez, moi, alors je ne sais pas si Jean-Claude Trichet sera d'accord avec moi, mon interprétation, c'est que dans les 20 ans qui ont précédé l'arrivée de l'euro, nous avions le système monétaire européen. Bon, qu'est-ce que ça voulait dire la souveraineté monétaire nationale dans un contexte où quand même le Deutsche Mark était de fait la monnaie principale de l'Europe et où la Bundesbank jouait un rôle quand même spécialement important. Donc moi je distingue la souveraineté réelle et l'illusion de la souveraineté. Moi je pense que pour nous, Français et France, le passage à l'euro, ça nous a redonné de la souveraineté en ce sens que la France est autour de la table à travers le gouverneur de la Banque Centrale, à travers aujourd'hui un membre du board, Benoît Curé pour ne pas le citer, il y a toujours eu un membre du board, et que avant nous prenions un peu la politique monétaire allemande comme la principale externalité de notre politique économique, alors que là nous sommes partie prenante d'un mécanisme de co-décision. Voilà.
Jean-Claude Trichet, de suiveur, est-ce qu'on a été davantage acteur grâce à cet euro, et vous êtes bien placé pour le dire, parce que vous avez été gouverneur de la Banque de France à la fin des années 90, puis le patron de la Banque Centrale Européenne à Francfort.
Oui, donc j'ai vécu cette transition extrêmement importante, et je partage entièrement le sentiment de Christian de Boissieu sur le fait que nous exerçons notre souveraineté dans un contexte multilatéral, collectif, alors que nous ne l'exercions pas vraiment auparavant. Donc c'est clair qu'il y a un avantage important qui est lié à l'euro. Mais je voudrais revenir un instant sur la zone euro et sa vulnérabilité affichée, hein, parce que nous sommes dans un univers de communication qui est, il faut bien le dire, très très hostile, très biaisé. Et cela, que l'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Angleterre ou dans le reste du monde, y compris en Europe. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que on en vient à oublier des éléments qui viennent d'être mentionnés, qui sont très importants. Monsieur Subran nous disait, on était 15 au moment du déclenchement de la crise qui est née aux États-Unis, dans la zone euro, on était 15. Les 15 sont toujours là, et 4 nouveaux pays sont entrés. On est 19. Est-ce que l'on veut une meilleure démonstration de la résilience d'une entité comme la zone euro que le fait de démontrer en pleine crise qu'elle est toujours en expansion? Moi, ça me frappe beaucoup. Ce n'est jamais dit, ça. Enfin, il faut que nous soyons ensemble pour le dire. Par ailleurs, sur les cœurs, la dernière enquête d'opinion qui vient d'être faite par l'Eurobaromètre en novembre publié en décembre, nous donne un pourcentage de concitoyens européens de la zone euro qui sont en faveur de l'euro de 70%. C'est le niveau le plus élevé qu'on ait atteint dans le passé avant la crise. Donc l'idée selon laquelle l'euro est rejeté, la zone euro est rejetée, n'est pas exacte. C'est la doxa. De même, je vous donne un dernier point, la zone euro, en 2016, a cru un peu plus vite que les États-Unis. Où et quand avez-vous entendu cela? Qui dit cela? Pas plus que les 70%. Ça n'est pas conforme à la doxa. La doxa est biaisée négativement. Ça ne veut pas dire, comme le disait Christian, et comme nous le disions tous, qu'il n'y a pas d'énormes progrès à faire dans la gouvernance économique, financière et budgétaire. Bien sûr.
Ludovic Sebran, on vient d'écouter ce chiffre donné par Jean-Claude Trichet, que 70% des Européens de la zone euro, quelque part, soutiennent cette monnaie unique. Mais il y a souvent ce sentiment, alors sentiment, hein, évidemment, perception, là aussi, que à cause de l'euro, on paye beaucoup plus cher les biens de consommation. Qu'est-ce que vous dites, vous, le chef économiste de l'ère Hermès?
Alors, il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai travaillé au ministère des Finances et à l'INSEE, j'étais en charge des prévisions d'inflation et de chômage en 2005, où on se posait tous les questions. Je vous rappelle qu'il y avait un grand patron du retail, de la distribution, qui sortait en disant « Regardez chez nous, on voit l'effet de l'euro, etc. » C'est faux. C'est-à-dire que toutes les études ont démontré qu'il n'y a pas eu d'inflation à cause de l'euro. Ensuite, est-ce que sur le long terme, à cause de certaines vulnérabilités, il y a des pays intrinsèques qui étaient là et qu'on n'a peut-être pas voulu voir. On a eu une certaine surchauffe de certaines économies. Ça s'est mal fini. Ça, c'est vrai. Mais je crois que malheureusement, il y a beaucoup de mythes autour de l'euro comme monnaie. Je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Claude Trichet. Si on fait 2 ans après 94, c'est la remontée très rapide des taux américains. À ce moment-là, je vous rappelle quand même que les écarts de monnaie au sein de la zone euro, de ce qui est aujourd'hui la zone euro, c'est-à-dire la lire par rapport au Deutsche Mark, etc., c'était un coup de chaud assez net, parce qu'on avait une remontée des taux un peu trop rapide et non communiquée au marché. Mettez-vous aujourd'hui, regardez l'effet qu'a eu la fin de la politique quantitative assouplie américaine et la remontée des taux, même si elle est beaucoup plus lente. Pas grand-chose. C'est-à-dire que l'euro est quand même un protecteur incroyable pour le consommateur, pour le pouvoir d'achat et pour les prix, au point qu'on s'est quand même posé la question du risque de désinflation continue en zone euro. C'est vrai que le problème, c'est que, je le disais, je pense vraiment, il y a eu à un moment donné des dirigeants politiques qui ont un peu jeté l'éponge et qui, n'arrivant pas à avoir la discrétion voulue sur leur politique publique, ont cherché un bouc émissaire et c'était plus facile de blâmer le triangle des Bermudes, Francfort, Bruxelles, Strasbourg, que de blâmer les actions de ces gouvernements ou les problèmes dus au pays.
Patrick Martin-Génie, juste, je vous repose la question que je posais à Christian de Boissieu. C'est vrai, dans les reproches qui sont faits donc aux instances européennes, à l'euro, c'est que l'euro, il a été imposé quelque part de force donc aux populations. Qu'est-ce qu'on peut dire, vous, le spécialiste des questions européennes?
Disons qu'il a été imposé, vous savez qu'il y a eu quand même un référendum sur Maastricht, est passé de justesse, mais il est quand même passé. On posait la question au peuple, alors que maintenant c'est un peu plus difficile dans le contexte de la montée du populisme en Europe. Donc le fait de dire qu'il a été imposé, ce serait de dire qu'il n'y a pas de démocratie. Bon, il y a quand même eu des parlements qui se sont prononcés, les gouvernements avaient des exigences politiques, on l'a parlé tout à l'heure, la réconciliation, arrimer l'Allemagne à la construction européenne, c'est très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent considéré l'euro comme étant le diable. On parle de la Troïka, la BCE, la Commission européenne qui va imposer, et le FMI qui va imposer des règles de restriction budgétaire à la Grèce.
Ça recommence cette semaine.
Alors que si ces instances n'étaient pas venues en aide à la Grèce, elles seraient probablement sorties de l'euro, entraînant une crise systémique, comme on dit, de ce système. Alors aujourd'hui, peut-être que les choses doivent être améliorées, parce que le président de la République, François Hollande, avait dit qu'il faudrait avoir une gouvernance politique de l'Union économique et monétaire. On parler d'un gouvernement de la zone euro et d'un gouvernement de la zone euro. Je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à ces objectifs qui sont politiques, qui émanent de la population et qu'il faut prendre en compte, je pense qu'il faut essayer effectivement de renforcer ce caractère démocratique de l'union économique et monétaire.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus, Christian de Boissieu? Quels sont les handicaps de l'euro? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, notamment à cause de l'euro? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer aujourd'hui, 25 ans après, en 2017?
Moi, je pense que le statu quo n'est pas une option. C'est-à-dire que c'est une des leçons que je tire de la crise de la zone euro, que j'ai rappelé tout à l'heure, qui a commencé début 2010, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, etc. La France, heureusement, s'en est plutôt bien sortie. Bon, alors, les leçons qu'il faut en tirer, c'est que moi, personnellement, par rapport à ce débat sur l'Europe à plusieurs vitesses qui vient d'être lancé...
À Malte, vendredi, par Mme Merkel.
Je veux dire, moi, ça me fait un peu rigoler, excusez-moi. Non, rigoler au sens que, quand on nous dit on va vers une Europe à plusieurs vitesses, on n'y va pas, on y est déjà. Donc, nous sommes déjà dans une Europe à plusieurs vitesses, et je pense que c'est autour de la zone euro qu'il faut faire de l'approfondissement. Parce que c'est pas à 27, je veux dire les 28 moins le Royaume-Uni qu'on va pouvoir, c'est pas à 27 à mon avis qu'on pourra avancer sur un certain nombre de sujets. Donc moi je fais partie des gens qui considèrent que pour avancer, alors il faut faire un mélange de réformes, peut-être des réformes institutionnelles, même si je sais que c'est difficile dans l'ambiance actuelle de changer les traités, mais moi je suis pour un Parlement de la zone euro qui soit à articuler, peut-être sous l'ensemble du Parlement européen. Je pense que le débat budgétaire est important, c'est-à-dire c'est pas uniquement la question du pacte de stabilité budgétaire et de croissance, c'est-à-dire le fait que il y a un certain nombre de pays, dont le nôtre, la France, n'ont pas été les bons élèves de la classe européenne en matière budgétaire et fiscale. Il y a aussi le débat sur le budget européen. Et je pense qu'il nous faut un budget de la zone euro qui soit peut-être plus qu'un sous-ensemble du budget de l'Union européenne. Et j'ajoute pour terminer, paradoxe de l'histoire ou provocation, je ne sais pas, Madame May va envoyer la lettre qui va déclencher l'article 50, c'est-à-dire le divorce. Elle va l'envoyer au mois de mars, au moment où va fêter l'anniversaire du traité
de Rome. 57,
intéressant.
2017. Jean-Claude Trichet, oui. Comment faire plus? Comment faire mieux? Comment rassurer, justement? On va voir naître cette Europe à la carte dont nous parlait Christian de Boissieu, allusion à ce qu'a annoncé Mme Merkel vendredi à Malte.
Non, je partage entièrement le sentiment qui vient d'être exprimé par Christian de Boissieu. Les deux vitesses existent évidemment déjà. On a déjà, en effet, 19 pays qui sont dans la monnaie unique. Et ces 19 pays doivent avoir un renforcement considérable de leur gouvernance. C'est indispensable. C'est en effet une des leçons de la crise. Le paradoxe est que nous sommes en train progressivement, me semble-t-il, parce que la crise s'est éloignée, elle s'est réellement éloignée, au demeurant, mais enfin, on est toujours dans l'ombre portée de cette crise financière dramatique. Et là, on a le sentiment qu'on peut relâcher les disciplines. Non, on a le pacte de stabilité et de croissance, il faut le respecter. Moi, j'ai déjà connu une période où on disait non, c'est beaucoup trop rigoureux. C'était juste avant.
Ce sont des éléments qui ont été
juste avant la crise
mis dans le traité de Maastricht et précisés ensuite par le traité d'Amsterdam, les 3% et les 60%.
Absolument. Et puis nous avons aussi maintenant, à cause de la crise, une surveillance des grands déséquilibres macroéconomiques. On n'en parle pas. La Commission, d'ailleurs, n'est pas assez active dans ce domaine. C'est très important. Ça fait partie de la nouvelle gouvernance. Il faut l'appliquer. Et l'appliquer de manière symétrique, c'est-à-dire dire aux Français et aux Italiens ce qu'il faut faire, dire aux Allemands ce qu'il faut faire, parce que c'est symétrique. Et puis, il y a maintenant l'union bancaire, qui est également un pilier très important. La crise nous a conduit à renforcer formidablement cette gouvernance.
Avec des
encore faut-il l'appliquer.
Un pays puisse sauver un autre pays, l'union bancaire faire en sorte que ne pas laisser une banque, finalement, au bord de la route. Hein.
Et surtout exercer une surveillance.
Une surveillance, bien sûr,
incontestable,
120, 130 banques
au niveau du centre.
Mais une façon aussi d'utiliser des outils, l'innovation institutionnelle pour venir aider les pays.
Et j'ajoute qu'il faut aller plus loin, et je partage entièrement le sentiment, il nous faut un ministre des Finances de la zone euro qui soit responsable, dont un seul cerveau étant responsable de l'ensemble de cette gouvernance, parce qu'actuellement on mélange tout. Et deuxièmement, il nous faut probablement, en effet, que le dernier mot démocratique soit donné lorsqu'il y a un gros conflit entre tel ou tel pays et les institutions de la zone euro. Il faut que les élus du peuple puissent décider. On ne peut pas se permettre des happenings grecs en permanence. Il faut arriver à avoir un système démocratique pour prendre des décisions difficiles.
Oui, un ministre européen de la zone euro, comme vous dites. Vous pensez, Jean-Claude Trichet, puis question que je pose aussi à partir avec Martin Genier, que les populations européennes, de plus en plus remontées contre Bruxelles et toutes ces instances, que ce soit à Francfort ou ailleurs, vont l'accepter ?
Je ne suis pas sûr qu'elles soient si remontées contre l'euro et contre la gouvernance de la zone euro. Elles sont pour la gouvernance économique, pour le gouvernement économique. Les Français ont toujours, de toute sensibilité, dit « vive le gouvernement économique ». Ils l'ont dit sans vouloir que ce gouvernement s'applique à eux, d'ailleurs, à vrai dire. C'est ça le problème.
Ludovic Subran.
Oui, tout à fait d'accord avec M. Trichet, effectivement. D'ailleurs, en France, il n'y a pas de rejet de l'euro. Ce qu'on reproche à l'Europe aujourd'hui, c'est son manque, probablement, d'aspect démocratique. Mario Draghi, votre successeur, était au Parlement européen hier ou ce matin. Il rendait compte aux parlementaires européens. C'est cette tendance qu'il faut renforcer et faire comprendre au peuple, et ils le savent, qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de s'unir pour être fort sur le plan international. Et je disais, excusez-moi, mais le fait que les Anglais s'en aillent, pour moi, c'est également une formidable opportunité d'approfondir.
Moi, je m'en serais passé de cette opportunité, mais puisqu'elle est là.
Ludovic Subran, puis on se retrouve dans un instant.
Sur le ministre des Finances de la zone euro, je crois que c'est aussi très générationnel, mais on sent bien qu'il y a des sujets. Un ministre des Finances, il faut qu'il ait une rentrée d'argent, une sortie d'argent. Il y a des sujets quand même sur la mobilité des gens. C'est pour ça que le CAE, que Christian de Boissieu a présidé pendant un moment...
Qui a duré 10 ans, oui.
Pendant 10 ans, a parlé justement de la portabilité des droits. Pourquoi pas commencer par l'assurance chômage? Parce qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on sent bien qu'il y a un niveau supranational. Mais c'est vrai qu'il faut donner, c'est un vrai fédéralisme à ce niveau-là, il faut donner les rênes, une rentrée d'argent, une sortie d'argent. C'est le propre d'un ministre des Finances.
On continue dans un instant. Est-ce que l'euro va rempiler pour 25 ans de plus? Parce que vous savez, eh bien, on rentre dans une campagne, ce soit aux Pays-Bas, France, Allemagne, et certains voudraient remettre en cause cette monnaie unique. Et si l'euro disparaissait, qu'est-ce qui se passerait? On continue dans un instant avec nos décodeurs de l'écho. Restez avec nous sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les 25 ans du traité de Maastricht, on en parle parce qu'évidemment, dans un contexte bien particulier d'une Europe qui subit des crises, question, l'euro va-t-il rempiler pour 25 ans de plus, hein? L'euro, l'Europe qui a pu s'imposer dans un paysage financier un peu troublé, on en parlait tout à l'heure avec Christian de Boissieu. C'est vrai, Jean-Claude Trichet, quand même, sérieusement, parlez-nous un petit peu de votre expérience. D'un mot, parlez au nom de l'euro quand on est président de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous avez été donc de 2003 à 2011, hein? Ça pèse lourd. On est entendu. Les propos sont bien examinés, quasiment mot par mot. Vos conférences de presse, chaque mois. Idem Mario Draghi maintenant depuis. Hein.
Bien sûr.
On est un personnage important.
Écoutez, oui, à l'évidence.
Parce qu'on pèse.
Surtout dans une période.
Parce qu'on porte un projet important.
Où l'influence des banquiers centraux est trop, à mon avis, exagérée. Hein, ouais. Parce que à cause de la capacité de communication des marchés, il y a une hypertrophie, si vous voulez. Et donc, on ressent cela de manière très, très forte. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est très exaltant, et ça l'a été aussi dans la période de crise, d'avoir, si vous voulez, à défendre ce qui était, dans une très large mesure, un verrou européen, si vous voulez, d'avoir à défendre, en quelque sorte, la pointe avancée de la construction européenne. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que lorsqu'on a créé l'Europe, donc il y a déjà très longtemps, en 1950, disons, où tout a commencé, on a ensuite, on s'est engagé dans le marché commun. À l'époque, on était dans le système de Bretton Woods. On avait une sorte de marché unique à monnaie unique qui était l'Europe. Le seul modèle que nous avions était les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous avons l'Inde, la Chine, bien entendu les États-Unis d'Amérique, le Mexique, le Brésil et demain encore 3 ou 4 autres pays. Nous avons une constellation de marché unique à monnaie unique qui rendent infiniment plus importante aujourd'hui le fait d'avoir ce que nous avons, c'est-à-dire un marché unique à monnaie unique, que ce n'était le cas lorsqu'on a créé l'euro. Et ça me frappe beaucoup, si vous voulez. Non seulement on a prouvé de la résilience dans la crise, non seulement on a encore énormément de travail à faire, mais on a beaucoup plus de raisons qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale de s'unir. Et l'Union, en effet, elle fait la force.
Ludovic Subran, un mot, parce qu'on entendait, vous êtes directeur de la recherche chez Allianz, vous êtes chef économiste pour l'assureur crédit Euler Hermès. Hein. On entendait Christian de Boissieu dire tout à l'heure que, oui, l'euro, finalement, tout le monde n'en a pas profité de la même façon. La France en a bien profité versus l'Allemagne. L'Italie, pas du tout. D'autres pays en ont profité.
Alors, il n'y a pas eu de perdant. C'est juste que les pays en ont profité. Non, je ne pense pas. Je pense vraiment que les pays en ont profité différemment.
Pour quelle raison on en profite différemment?
Parce qu'il y avait des pays pays qui avaient un problème de déficit d'infrastructure, d'autres pays qui n'arrivaient pas à tirer l'épargne du reste du monde. Et donc, quand vous êtes l'Italie à ce moment-là, je vous rappelle qu'en dessous du pot, il n'y a pas grand-chose. Et donc, vous avez attiré de l'épargne de gens qui avaient de les richesses dans le reste de l'Europe. Et comme c'était l'euro, ils ne prenaient pas de risque et ils venaient financer aussi des infrastructures dans l'économie réelle. Après, il y a eu des abus. Hein, voilà. Mais quand vous êtes l'Allemagne, c'est vrai, vous en profitez.
L'abus, c'est quoi?
L'abus, ça a été, je le dis encore, des politiques publiques qui n'ont pas respecté les règles. C'est-à-dire que ça marche sur un socle de confiance, cette monnaie unique. Si vous regardez, Jean-Claude Trichet parle à l'instant des économies, des unions économiques et monétaires en rappelant les États-Unis. Ça prend du temps de gagner cette confiance, mais ça prend surtout un sillon qu'on est tous prêts à apprendre ensemble. Et donc, les gens sont persuadés que l'Allemagne en a énormément profité parce qu'elle a grandi son marché à l'export. Mais les pays du Sud qui n'attiraient pas l'épargne à cette époque-là ou qui étaient considérés comme risqués ont réussi à attirer aussi. Leur balance des paiements a complètement changé du jour où ils ont été dans l'euro. Donc, je pense que tout le monde a profité. Ils n'ont pas tous transformé l'essai. Ça, c'est sûr.
Alors, je le disais, donc, on rentre dans une période, j'allais dire, troublée, hein, peut-être, en tout cas de menace, un peu plus peut-être pour l'Europe. C'est la campagne des élections, alors aux Pays-Bas, bien sûr, l'Allemagne un petit peu plus tard, et puis la France. Hein, on sait que le Front National est partisan depuis longtemps d'une sortie de la monnaie unique. Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut une sortie des traités européens. Benoît Hamon, il veut parvenir à une sorte de moratoire sur le pacte de stabilité et de croissance, vous savez, qui fixe les règles budgétaires, hein, inhérentes donc à ce traité de Maastricht. E3 avait voté non au traité de Maastricht, comme Fillon également. Tiens, Fillon, il avait voté non à l'époque, hein, même si, évidemment, le candidat de droite et les Républicains veulent rester dans la zone euro. Imaginons que la France sorte de l'euro d'une façon ou d'une autre. Christiane Boissieu, quel impact donc sur l'économie du pays?
Écoutez, d'abord, vous avez compris que je ne souhaite en aucune façon...
J'entends.
Non, mais j'essaye de le dire. Le dis d'emblée pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour vos auditeurs. Deuxième remarque, au moment où il était question que la Grèce sorte de la zone euro, au pic de la crise, de la dette vers 2011-2012, à ce moment-là, mais dès le début, j'étais contre parce que je pense que ça aurait beaucoup plus d'inconvénients. C'est l'illusion de la souveraineté, l'illusion de retrouver la souveraineté monétaire en recréant sa monnaie dans un contexte où vous dévaluez, vous êtes dans des cercles vicieux d'évaluation 50 ou 60% pour la Grèce à l'époque. Si vous sortez de la zone euro, c'est pas pour faire une dévaluation de votre nouvelle monnaie de 10%, c'est pour faire une dévaluation massive. Vous avez de l'inflation, vous avez de nouvelles dévaluations, vous avez un cercle vicieux qu'on a connu à certains moments dans les années 80 en France, dévaluation, inflation, nouvelle dévaluation. Vous avez une montée des spreads, des écarts de taux d'intérêt. Parenthèse, vous avez vu comme moi que compte tenu du bruit autour de la campagne présidentielle française, les écarts de taux d'intérêt avec l'Allemagne commencent à monter. J'espère qu'on n'ira pas trop loin.
On va y revenir.
Va y avoir des conséquences directes pour les finances publiques et pour les charges d'intérêt en France.
Alors, on va y revenir.
Pour moi, n'aurait que des inconvénients. C'est sortir... Pour un pays.
Par exemple, Marine Le Pen, elle dit l'euro est surévalué, donc les produits trouveraient davantage de débouchés.
Trump, il nous dit l'inverse, je vous signale. Trump, il accuse, tort d'ailleurs, Madame Merkel, qui est pour rien, d'avoir. L'euro vaut aujourd'hui 1,07.
Par rapport au dollar.
Bon. Pour moi, il n'est pas très loin d'une sorte de taux de change d'équilibre, quelle que soit la manière de le calculer. Je vous rappelle quand même, pour revenir sur Trump, que quand l'euro valait, disons, au premier semestre 2014, avant que la BCE accentue sa politique monétaire expansive, l'euro valait 1,30 ou 1,35 dollars, on n'entendait pas les Américains se plaindre, à ce moment-là, de la parité. On est en change flottant au plan mondial, c'est normal qu'il y ait des cycles, des périodes de surévaluation, de sous-évaluation.
Avec un dollar faible, spécialement, depuis l'arrivée de Trump.
Je termine en disant que, pour moi, je disais, le statu quo n'est pas une option, parce que moi, je suis évidemment pour le maintien et l'approfondissement de l'euro, mais ça suppose... Jean-Claude Trichet a dit, à juste titre, qu'en 2016, la zone euro avait une performance moyenne supérieure à celle des États-Unis. Je pense quand même qu'il faut qu'on mette le paquet sur la croissance. Le problème de l'Europe, c'est le chômage. Et les gens, à tort, je parle de chômage parce que jusqu'à présent, on n'en a pas parlé. Les gens pensent que la cause du chômage, c'est l'euro. Évidemment, c'est faux. On demande tout aux politiques monétaires. On demande trop aux politiques monétaires. Dans le débat, il y a aussi les politiques budgétaires et les réformes structurelles. Et donc, je pense que il faut aussi quand même appuyer sur l'accélérateur, c'est pas uniquement sur le frein. L'accélérateur, moi, ça fait longtemps que je pense qu'il faut augmenter le plan Juncker. Monsieur Hollande a dit oui, on va vers 600 milliards d'euros sur 3 ans. C'est bien de financer de l'investissement des projets, les PME, etc. Il faut jouer là-dessus pour calmer un peu le populisme, je pense.
Alors, justement, tiens, Jean-Claude Trichet, Christian de Boissy, il y a quelques instants, a évoqué, donc, ces rumeurs de victoire de Marine Le Pen qui font que l'écart...
Non, j'ai pas évoqué ça,
mais
enfin...
Bah, c'est lié, bien entendu.
Non, si. Mais enfin, je me suis placé dans la scénario dans lequel vous m'aviez placé.
Oui, bien entendu, mais oui, donc, en effet, d'accord. On revient sur la même question. Il y a des rumeurs comme quoi, donc, eh bien, certains investisseurs craignent que Marine Le Pen puisse l'emporter au mois de mai, justement. Et on voit, justement, eh bien, l'écart des taux entre la France et l'Allemagne qui battent des records depuis maintenant 7-8 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs? Est-ce que c'est exagéré? Il y a un mouvement de panique ou pas à l'extérieur, chez les investisseurs?
Aucun mouvement de panique, me semble-t-il. Et il est évident que ceci ne se produira pas. Donc je ne discute pas, moi non plus, comme tu le disais il y a un instant, Christian, je ne discuterai pas ce point-là.
Mais ils se trompent, les investisseurs. C'est Michel Sapin qui disait cet après-midi, les investisseurs qui disent que Marine Le Pen va gagner se trompent et vont perdre de l'argent.
Non, tout ce que nous avons comme connaissance de notre opinion, comme connaissance des enquêtes d'opinion, montre qu'il n'y a aucune chance. Donc, on est dans un domaine où on ne peut pas empêcher
les opérateurs du marché, les experts, les participants du marché vont vous dire il y a du qualitatif qu'il faut absolument regarder. Et ce n'est pas exclu, malgré tout, voilà.
Écoutez, moi je
vous dis non.
Bien sûr,
bien sûr.
En revanche, il y a un point très important, en effet, qui est celui du chômage. Parce que c'est quand même le chômage de masse ou l'absence de chômage de masse qui est le grand critère. La réussite de la zone euro, elle sera affirmée, pas simplement sa survie, sa persévérance dans l'être, qui est remarquable, mais lorsque tous les pays auront le plein emploi. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, bien entendu, les réformes structurelles, comme cela a été dit il y a un instant, sont très importantes. Le fait que nous gaspillons à peu près 13% de notre PIB en dépenses publiques par rapport à l'Allemagne est évidemment un facteur pour nous d'absence de compétitivité et de chômage terrible. Le chômage est issu, si vous voulez, de ces erreurs de gestion. Mais en plus, il faut contrôler ses coûts. Dans une zone à monnaie unique, il faut contrôler ses coûts. Nous le faisions admirablement au sein du SME avec la désinflation compétitive. Depuis, je dois dire que les Allemands ont prouvé qu'ils faisaient passer la suppression du chômage avant tout. Ils se sont serrés la ceinture et ils n'ont plus de chômage. Et tout le monde est content en Allemagne, ou presque. En France, on ne s'est pas serré la ceinture. On a toujours du chômage de masse et tout le monde est mécontent alors que les rémunérations ont augmenté d'environ 15% de plus en France qu'en Allemagne. Dans la même monnaie, avec le même pouvoir d'achat international et le même coût international. Donc il faut être bien conscient de ça. Ça, c'est un discours qui n'est pas souvent tenu. La modération des coûts dans une économie, dans une monnaie unique, pour ceux qui ont du chômage, évidemment, pour ceux qui n'ont pas de chômage, alors au contraire, il est très bon, en effet, qu'ils augmentent leur salaire. C'est
donc
excellent.
L'euro n'est
c'est
pas
ce qu'on peut recommander aux Allemands. Mais il faut faire la recommandation exactement inverse aux Allemands et aux Italiens et aux Français.
Donc, si vous dites l'euro n'est pas forcément un ennemi de la croissance, mais lorsque on n'utilise pas les bonnes règles à l'intérieur d'un pays, il peut l'être, en effet.
Non, je dis l'euro a bénéficié à tout le monde.
Oui.
Il a bénéficié à tout le monde, toutes choses égales d'ailleurs. Si l'on veut supprimer le chômage de masse, il faut alors être cohérent dans sa stratégie macroéconomique.
Si je peux paraphraser, je me risque un exercice difficile, mais l'euro a fait procrastiner certains pays sur les réformes nécessaires, parce qu'il masquait les vulnérabilités qui existaient déjà. Et on le voit, on parlait des taux juste à l'instant, c'est aussi ce qui se passe sur les taux. C'est-à-dire
la France
que
a fermé les yeux.
Risque, ouais. La France, l'Italie, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas vu forcément ça. Un mot sur le coup de chaud sur les taux, je suis désolé, mais en gros, je suis tout à fait d'accord, on pense que c'est quand même un risque complètement minime. Un, les taux remontent dans l'ensemble des pays, les écarts de taux remontent parce que on a eu des chiffres d'inflation en Allemagne qui tendent vers une remontée possible, enfin une fin un petit peu plus prématurée que ce qu'on aurait pu bien croire de l'assouplissement quantitatif par la Banque Centrale Européenne. Et donc, si vous voulez, il y a une petite anticipation que les primes de risque pourraient de nouveau être un peu hétérogènes. Sur la France, c'est pas tant Marine Le Pen, mais je vous assure que, un,
les investisseurs ne comprennent pas notre système institutionnel, ils ne comprennent pas que l'élection présidentielle c'est 80% de taux de participation, que c'est deux tours, ils ne comprennent pas aussi qu'il y a un parlement, qu'il y a un risque de cohabitation, et donc nous on passe notre temps à les éduquer sur ce sujet parce qu'ils sont habitués à la proportionnelle. Deuxième chose, c'est vrai que ce qu'ils...
Donc la France n'est pas un risque politique.
Non, il n'y a pas de... Non. Non, non, c'est pas un risque
plus.
Politique.
Non, non, non plus,
évidemment.
C'est le brouillard autour, si vous voulez, quand je vous assure que le flux de mauvaises nouvelles n'aide pas à expliquer qu'il n'y a pas une montée sous-jacente du populisme. Ça, c'est sûr, en revanche.
Est-ce qu'il y a un risque Trump sur l'économie, de façon générale, Jean-Claude Trichet, économie américaine, et puis en dehors dans le reste du monde?
Il y a un risque d'erratisme et de très grandes difficultés de prévoir l'avenir. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour tous les investisseurs, c'est très mauvais pour tous ceux qui ont à prendre des décisions qui engagent l'avenir. Donc l'imprévisibilité des décisions américaines en ce moment est grave. Aussi le fait que l'idée que l'on oublie complètement la crise et que l'on revient à la période de dérégulation, alors qu'on avait pris, à mon avis, à juste titre, beaucoup de nouvelles régulations de manière à éviter le retour de cette crise terrible, est un élément qui m'inquiète beaucoup. Et je dois vous dire que lorsque je regarde l'indicateur auquel j'attache le plus de prix, c'est-à-dire encours de dette publique et privée au niveau mondial, en proportion du PIB mondial, je vois que depuis la crise, ça a continué à augmenter à peu près au même rythme qu'avant la crise. Donc il n'y a absolument aucune raison d'être tranquille ou d'être complaisant. Nous sommes dans un monde qui demeure extrêmement dangereux.
Ludovic Subran, juste avant qu'on conclue sur l'euro, un mot sur le puisqu'on parlait de l'export tout à l'heure, le déficit commercial qui a battu des records en 2016 contre toute attente, hein, 48 milliards d'euros, donc bien au-dessus de l'objectif du gouvernement. Le gouvernement qui dit, oui, il y a eu des retards chez les fournisseurs d'Airbus qui ont décalé des livraisons d'avions. Il y a une baisse des exportations agricoles, il y a une mauvaise saison dans les céréales. Est-ce que c'est suffisant comme explication? Parce que clairement, on voit que la France perd sa compétitivité.
Alors il y a en effet tout ce qui est dans le communiqué de presse des douanes, mais il y a aussi bien sûr un problème qui a été, à mon avis, qu'on n'a pas fait attention assez au problème structurel de l'export. Un, on n'a pas assez d'exportateurs en France. Deux, je pense que malheureusement, le juge de paix qui est le déficit commercial n'est pas le bon indicateur à regarder. On lui prête beaucoup trop d'importance. Vous regardez ce que fait la Banque de France et le déficit courant de la France, c'est-à-dire vous comptez un petit peu son déficit par rapport au reste du monde, combien d'épargne du reste du monde elle a besoin pour fonctionner. On est pratiquement à l'équilibre et ça, personne ne le dit. Donc c'est vrai qu'on regarde cet indicateur-là et cet indicateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plutôt qu'on a des grosses entreprises, des gros contrats qui font la chronique, mais qu'en revanche, on n'a peut-être pas de masse compétitive qui va à l'export. Moi, c'est plutôt ça que je retiens de ce chiffre plutôt que le conjoncturel.
Alors, les 25 ans du traité de Maastricht qui lançait l'euro, est-ce que l'euro va rempiler pour 25 ans de plus? Réponse courte de chacun. Patrick Martin-Génier.
Moi, j'espère que l'euro va rempiler, car c'est une grande étape de la construction européenne, mais elle ne peut plus s'arrêter aujourd'hui. Il faut approfondir la construction européenne et aller plus loin.
Christian de Boissieu.
Oui, il va continuer, mais il faut compléter le dispositif actuel. L'union bancaire, dont on a parlé, est un complément utile. Je suis un peu inquiet du fait qu'elle n'est pas totalement appliquée dans ses principes avec ce qui se passe en Italie aujourd'hui et le traitement de Monte Paschi di Siena.
Voilà, di Siena, voilà, exactement. Et... Ludovic Subran.
Écoutez, je crois que c'est aussi une profession de foi, donc oui, moi j'y crois et je ferai tout pour, à mon échelle, pour m'assurer que l'euro continue, parce que c'est une belle aventure politique, monétaire, économique, et que je pense qu'elle bénéficie à tout le monde. Ouais.
Et Jean-Claude Trichet.
C'est la pointe avancée de la construction européenne. Elle a déjà 2/3 de siècle. Elle a 2/3 de siècle devant elle. Au moins, c'est une entreprise historique de très très longue durée, donc je ne m'arrête pas aux 25 ans. On est en présence d'une construction historique de très longue durée.
Jean-Claude Trichet avec nous, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne dans les décodeurs de l'écho. Merci beaucoup, merci Jean-Claude Trichet. Merci Ludovic Subran, chef économiste chez l'assureur Crédit Euler Hermès et puis directeur de la recherche chez l'assureur Allianz. Avec nous également Christian de Boissieu, le vice-président du Cercle des économistes, professeur d'économie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis Patrick Martin-Génier. L'Europe a-t-elle encore un avenir? C'est la question qui se pose. Son livre qui sort dans 2 semaines. Il est spécialiste des questions européennes à Sciences Po. C'est fini pour les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.